Hop là, shalom ouvracha. Hop là, hop là. Petite seconde, je lance également. Hein? Toc, toc, tac, tac, tac. Yofi, on est bon. Yofi. Yofi. Yofi, Erev Tov. Erev Tov, les Koulam.
Bonsoir, Kvod Arav.
Comment ça va?
Ben, on penserait qu'on te verrait autour d'un barbecue avec des merguez et tout ça. Là.
Quoi, déjà?
il faut s'y mettre. Hein.
C'est un peu tôt, là, c'est un peu tôt.
Comme la boisson, hein. C'est important. Il faut...
L'important, c'est de commencer.
Et voilà.
Ben oui, évidemment. Tov.
Tov.
Yofi.
Ah, voilà. Admit.
Alors, c'est parti.
Ok, eh ben, je pense qu'en régie, on est ok.
On est bon. Eh bien, alors très bien, les amis, Erev Tov, les Koulam, j'ai sorti ma plus belle kippa, voilà, en l'honneur de la personne qu'on va évoquer ce soir, et grâce à lui, on va parler évidemment d'histoire, on va parler de Géoula, on va parler de grandeur, parce que voilà, il faut bien comprendre une chose, il y a des fois des événements qui dépassent tellement l'humain, eh ben qu'on en oublie les acteurs de l'événement. Il y a des fois des personnalités qui ont joué un rôle tellement essentiel dans l'histoire qu'ils ont apporté une telle patte, j'ai envie de dire, sur ben, le sens des événements, que les événements sont devenus tellement extraordinaires grâce à eux qu'on les a oubliés. Et je pense que la personne qu'on va évoquer ce soir, eh bien, c'est exactement ça. Un Rav Yehuda Leib Maimon Fishman à Cohen. Eh bien, à mon avis, il est un de ces géants oubliés, un de ces personnages extraordinaires qui a été, eh bien, flouté par l'événement auquel il a participé. Et donc, vous voyez évidemment de quoi je parle. Le Rav Maimon HaKohen, on y reviendra évidemment. Le Rav Maimon est installé, je le dis maintenant, mais on y reviendra au fur et à mesure de notre étude, mais il est installé à la droite de David Ben-Gourion lorsque ce dernier déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Vous savez comme moi ce que représente d'être assis à la droite de quelqu'un, vous comprenez donc qu'il a dû forcément jouer un rôle énorme dans cette histoire. Alors les amis, revenons au commencement. Le commencement, c'est à la frontière actuelle avec l'Ukraine, avec à l'époque c'était la Russie, c'était l'Empire russe. Le Rav Maimon naît en 1875. Il est en 1875 et qu'est-ce que je raconte? En 1885, autant pour moi. Et très jeune, puisque simplement à l'âge de 15 ans, il est déjà Megide Shiur, il est déjà celui qui transmet les Shiurim dans sa ville de naissance, là-bas, j'ai dit sur la frontière ukrainienne, il est déjà celui qui... Bah, qui est la référence un petit peu pour tout le monde. Alors, il habite à Sarabia, c'est là-bas qu'il va évoluer, qu'il va grandir, et tout de suite, on peut voir quelle est la grandeur du bonhomme. Alors, comprenez-moi bien, si on devait déterminer la personnalité du Rav Maimon, eh bien, son petit-fils, qui était plus proche de lui que n'importe qui, le décrira comme étant Ish Tzibur, Ve'ish Sefer. C'était l'homme, une personnalité publique et également un homme de livre. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on, les amis? Mais qui est donc le Rav Maimon? tout d'abord, il faut que vous compreniez que quand je dis qu'à 15 ans, il est déjà en train d'enseigner, il n'est pas encore le rave de la ville. Non, à Sarabia, on pense que 15 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Ils vont attendre qu'il ait 20 ans pour en faire le rave de la ville. Il sera Ousmach la Rabbanout, et je pense que rien que ça, ça en dit long. Il sera intronisé rabbin par un des plus grands géants du judaïsme, non seulement de cette époque-là, mais de manière générale. Il sera un des plus grands commentateurs de la halakha de ces dernières générations, à savoir le Rav Yechiel Michal Epstein, Baal Aruch Ashulchan. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui va le faire rentrer dans le grand bain. Et tout de suite, eh bien, on comprendra que le Rav Maimon, c'est une personnalité toranique absolument incroyable. C'est une personnalité toranique incroyable qui est un amoureux des livres. Un amoureux des livres, alors, Ani Magdim et Ameuchar, mais il faut savoir que le Rav Maimon a beaucoup voyagé. A beaucoup voyagé, Mitokef Tafkido, à cause de son travail, et c'est le fait qu'il était représentant du Yishuv Ayoudi Beret Israël après, et avant ça, avant même qu'il monte, il était païen. Mais qu'il a beaucoup voyagé, et comme il était amoureux des livres, là où il allait, il se procurait des livres de partout. Même quand il habitait finalement en Israël, eh bien, une fois par semaine, il rentrait avec un bouquet de fleurs à la maison. Et des dires de son petit-fils, le bouquet de fleurs n'était pas pour contenter sa femme, mais c'était pour cacher le livre qu'il tenait dans l'autre main pour ne pas que sa femme le voie ramener tout le temps des livres. Entre parenthèses, quand on parle de la bibliothèque du Rav Maimon, on parle de la plus grande bibliothèque de particuliers, alors si je ne sais pas du monde, mais d'Israël, du monde juif, c'est évident. Le Rav Maimon avait une bibliothèque qui comptait 40 000 livres. 40 000 livres! Et de témoignages de sa femme, de sa fille, il n'est pas un seul livre qui est rentré dans sa bibliothèque que le Rav Maimon n'avait pas lu. Alors certains, il les a lus plus en profondeur, d'autres, il les a survolés, mais il savait tout ce qu'il avait marqué dans tous ses livres. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le personnage. Un grand bonhomme de la Torah, un grand bonhomme de l'étude, un amoureux de l'étude, un passionné de l'étude, mais dans sa bibliothèque, il n'y aura pas que des livres de Torah, mais également des livres de littérature, des livres de poésie, des livres de philosophie, un amoureux du livre. Donc, mais si ça avait été simplement un amoureux du livre, je ne suis pas certain qu'on aurait fait un cours là-dessus, et je ne suis pas certain qu'il aurait eu cette place extraordinaire, eh bien, dans l'histoire juive. Alors, pourquoi est-ce que le Rav Maimon est si particulier? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, la première chose qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est un activiste politique. Dès son plus jeune âge, c'est un activiste politique. C'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions et qui donc, lorsqu'il doit prendre position, eh bien, prend position. Rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Vous comprenez que lorsqu'il va prendre ses positions ouvertes sur le sionisme, même quand il sera encore en Europe de l'Est, il sera énormément critiqué par bon nombre de communautés et en Israël également. Il racontera même avec humour que, faut savoir que le Rav Maimon, c'est au moins autant de Pashkevilim, vous savez, ces espèces d'énormes écriteaux sur des pancartes publicitaires où le monde orthodoxe déverse son mécontentement contre quelqu'un. Eh bien, le Rav Maimon aura au moins autant de Pashkevilim, sinon plus, que le Rav Kook. C'est-à-dire que les gens vont être fondamentalement contre les gens dans certains milieux, vous m'avez compris, fondamentalement opposés à ces prises de position, mais pourtant, et c'est quelque chose d'assez étrange, il avait un petit truc qui fait que tout le monde le kiffait. C'est-à-dire qu'il avait beau être détesté dans ses opinions, et ben partout où il allait, il y avait des rencontres très amicales avec tous les membres des partis, des castes les plus anti. Il racontera même avec humour que lorsqu'il y a eu la Brit Mila de son fils, eh bien, lors de la Brit Mila de son fils, on va trouver à la Brit Mila pratiquement tous les membres de Netour et Karta de Jérusalem, ce qui va devenir Peleg Yerushalmi. Ils viennent tous à la Brit du fils du Rav Maimon. Et les gens demandent au Rav, mais enfin, ce sont ceux qui écrivent contre toi toute la journée, pourquoi ils viennent à la Brit? Et il raconte avec humour, il dit, non, mais ils sont pas venus pour me faire kavod, ils sont venus parce qu'ils étaient pas sûrs que j'allais faire la Brit à mon fils, puisque je pactise avec les sionistes. Alors, ils étaient pas sûrs que j'allais faire la Brit Mila à mon fils, alors ils sont venus pour vérifier. Nounou, nounou. Les amis, le Rav Maimon, dès qu'il commence à comprendre quel est le rôle de la résurrection nationale, eh bien, il devient un activiste pour le peuple juif. Il est déjà un membre du Hapoel HaMizrahi, et très rapidement, en 1913, il monte en Israël. Il monte en Israël en 1913, il va pas rester longtemps pour la simple raison que, eh bien, un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate, et il est renvoyé par l'Empire ottoman, eh bien, dans l'Empire russe. Parce que, évidemment, la Russie est contre l'Empire ottoman à ce moment-là, et donc il est évacué de la terre d'Israël. Il sera donc exclu de la terre d'Israël pendant la Première Guerre mondiale, et c'est pendant cette période-là qu'il va devenir un des membres actifs du Hapoel HaMizrahi. À l'époque, il était un soutien, maintenant il devient un membre actif du Hapoel HaMizrahi. Il revient en Israël juste après la fin de la Première Guerre mondiale, et il revient dans un Israël divisé. Divisé, vous le savez très bien, c'est l'époque, les années 20, les années 30, c'est l'époque qu'on appelle la saison. La saison où entre les différentes factions de la Haganah, du Hetzel, du Lehi, on se fait la guerre. Et on se dénonce. Et on se dénonce aux Anglais. Tout le monde a peur de cette époque-là. Personne ne veut prendre position. On se rappelle du tioul qu'on avait fait sur autour de la personnalité de Reb Aryeh Levin, que tout le monde avait peur de devenir le rabbin des prisonniers parce que on avait peur d'être considéré comme étant un partisan du Hetzel du Lehi. Le Rav Maimon va être un des seuls à s'exprimer ouvertement sur le fait qu'il est favorable,
son soutien,
merci beaucoup, son soutien et au Hetzel et au Lehi et à la Haganah, et être complètement opposé à la saison. On ne se vend pas les uns les autres. On fait partie du même peuple, on a le même objectif. Et faut savoir que prendre cette prise de position, eh bien, c'était complètement unique en son genre. Unique en son genre, mamache. Alors, une fois qu'on en est là, eh bien, il faut qu'on parle, parce que ça y est, vous aurez compris que c'est non seulement un Talmid Chacham Gadol, c'est en plus un Pa'il Tzioni Nilav, et il travaille pour la Ahdout, mais il ne faudrait pas oublier un de ses meilleurs amis, pour ne pas dire son meilleur ami. Dès qu'il était exclu d'Eretz Israël, en 1914, eh bien, où est-ce qu'il va partir? Il va partir un temps aux États-Unis. Pas s'installer aux États-Unis, mais aller d'un congrès à un autre, d'une conférence à une autre. Et une fois qu'il reviendra en Israël, il continuera à partir de temps en temps, et assez souvent d'ailleurs, aux États-Unis, pour plaider la cause sioniste. Eh bien, dans les hôtels, dans les chambres, dans les congrès, il est toujours en parallèle avec un autre personnage que vous connaissez bien. Il est en parallèle avec l'homme aux cheveux à 3 millions de dollars, David Ben Gurion. Et très très rapidement, les deux vont se lier d'une amitié à toute épreuve. Mais à toute épreuve, mamache. David Ben Gurion et Yehuda Leib Maimon Fishman HaKohen deviennent mamache les meilleurs amis du monde. Pour témoigner de cela, eh bien, lors de l'une des conférences qu'ils donnent ensemble à New York, Leurs deux femmes respectives sont encore en Israël, sont toujours en Israël. Et elles sont toutes les deux enceintes. Mais on n'a pas de d'échographie à l'époque, on ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre. Et ils passent un pacte tous les deux, que si jamais ils ont une fille, eh bien ils l'appelleront Geoula. Mishum Geoula Ta'aretz, Geoula Ta'am. Eh bien les amis, Eben Gurion a eu une fille, et le Rav Maïmon a eu une fille, et les deux ont appelé leur fille Geoula. Ils sont inséparables, ils sont toujours ensemble, bien que très souvent en désaccord. Alors évidemment, pas en désaccord sur l'idée que doit représenter le rêve de concrétisation d'un pays pour le peuple juif. Ça, évidemment qu'ils sont pas en désaccord, évidemment qu'ils sont ensemble. Mais sur, ok, mais le comment doit être le peuple juif retrouvé en Israël, là-dessus, ils vont être très souvent en désaccord. Mais ça n'empêchera pas, eh bien, ça ne les empêchera pas d'être fondamentalement liés l'un et l'autre. Et quand on dit tout le temps que David Ben-Gurion déteste les rabbins, Zelo Nachon, ça dépend quel rabbin. Il déteste, en fait, tout ce qui est l'ancien Yishuv, le Yishuv Hayashan. Ces gens qui habitent en Israël, mais qui ne veulent pas prendre part active ni à la défense, ni à la construction, ni à rien du tout, ceux-là, David Ben-Gurion ne les aime pas du tout. Mais il est amoureux des gens, par exemple, de la Aliyah Rishona, qui étaient tous des religieux, des gens qui ont construit Mikveh Israël, qui ont construit le Petar Tikva, qui sont tous des religieux. À ce moment-là, le Rav Maïmon fait office de son rabbin de poche. C'est son rabbin préféré. C'est sa personnalité toranique préférée. Et ils vont marcher ensemble comme ça pendant tout le trajet, pendant tout le chemin qu'ils vont faire ensemble. Il faut savoir que le Rav Maïmon, quand je dis qu'il est prêt à ses opinions, il est prêt également à en payer le prix. Pendant ce qu'on appelle le Shabbat noir, ou sous le mandat britannique, les Anglais vont arrêter tous les activistes pour la création d'un pays juif, eh bien le Rav Maïmon ne déroge pas à la règle. Il se fait arrêter. Il se fait arrêter, Shabbat Ashrora, mais le problème c'est que le Rav Maïmon, il a déjà passé la cinquantaine. Il est plus tout jeune. Et ils viennent l'arrêter, donc c'est Shabbat. Et à ce moment-là, ils lui disent, tu es maintenant prisonnier de l'Empire britannique et on va t'amener à la prison, la grande prison de Latroun. Et lui, il habite à Jérusalem. Alors le Rav Maïmon, il dit, moi, j'ai pas de problème. Ok, vous voulez m'emmener en prison, pas de problème. Je vous suis, sans opposer de résistance, à Latroun. Aval, on y va à pied. Ou alors, vous attendez la fin de Shabbat. Les Anglais vont le transporter de force jusqu'à la troune, pas parce qu'ils s'opposent à son arrestation, mais parce que c'est Shabbat. Lorsqu'il arrive à la troune, il va commencer une grève de la faim. Parce qu'il dit, les Anglais qui sont la ville lumière, le pays lumière de l'humanité, empêcher un juif de retourner dans le pays de ses ancêtres et, de plus, déroger à la déclaration Balfour qu'ils ont signée, eh bien, c'est un scandale, grève de la faim. Le problème, c'est que la famille du Rav Maïmon commence à avoir très peur pour lui. Grève de la faim, il n'est pas extrêmement vieux, mais quand même, c'était pas la meilleure chose à faire. Et ils arrivent à lui faire passer des messages. Et dans les messages, il y est dit que s'il continue la grève de la faim, qu'il sache que toute la famille fera également une grève de la faim, y compris son petit-fils qu'il aimait tellement. Et c'est lorsqu'il voit, il entend que son petit-fils, de l'âge de 5 ans à ce moment-là, va commencer également une grève de la faim, c'est là qu'il accepte de manger, mais à la seule condition qu'il puisse avoir des contacts réguliers avec son petit-fils. Ces contacts réguliers vont être également la possibilité pour nombre de personnalités du Yishuv de venir également lui rendre visite et finalement de le faire sortir de là. Rav Maïmon, comment vous dire ? Le Rav Maïmon, comme on l'a dit, est un ami fidèle de David Ben-Gurion. Et donc, lorsque le projet création d'un État commence à se profiler pour de vrai, eh bien, le Rav Maimon est totalement impliqué dans les décisions qui vont être prises. Il faut bien comprendre une chose. David Ben-Gurion, c'est pas quelqu'un qui était très démocratique. C'est pas quelqu'un qui demandait le vote à la majorité pour chaque décision. Loin de là. Mais il y a un homme qui pouvait faire pencher David Ben-Gurion, c'était le Rav Maimon. Il faut savoir que le Rav Maimon sera le premier ministre des cultes, le premier Sar HaDatot de Medinat Israël, dans une époque où, eh bien, c'est le tout début de la création de l'État d'Israël, c'est donc les années où on va mettre en place à quoi va ressembler l'État d'Israël, également en termes de date ou Médina. Toutes les dimensions du statu quo, toutes les dimensions de Kashrout au sein des institutions, tout ça, on a dit, quand on a fait le cours sur le Rav Goren, que le Rav Goren avait tapé du poing sur la table, bien évidemment, mais celui qui au final fait pencher la balance, dans les premières années de l'État, plus tard ce sera le Rav Goren, mais dans les premières années de l'État, eh bien c'est le Rav Maimon HaKohen. Et lorsque Ben Gurion veut faire des choses qui ne sont pas du goût du Rav Maimon, eh bien il a deux mots code qui marchent tout le temps, qui dit Ani mispater. Vas-y, Ani mispater, je démissionne. Dès qu'il disait ces deux mots, Ben Gurion se calmait tout de suite et il changeait et non, je veux pas que tu démissionnes. C'est assez bizarre d'ailleurs de voir à quel point Ben Gurion sentait que le Rav Maimon, c'était son appui principal. Rav Maimon, c'est lui qui va mettre en chantier tous les édifices de Torah, de respect de la tradition dans l'espace public, du Shabbat en tant que jour férié de l'État, de Kashrout dans les institutions de l'État, pas encore de l'armée, mais de l'institution de l'État. Tout ça, c'est le Rav Maimon. Comment vous dire à quel point il a laissé une trace indélébile. Alors, bon, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien gentil, mais le moment le plus important de l'histoire, c'est d'abord de se poser la question, est-ce qu'il s'appelle le Rav Maimon ou est-ce qu'il s'appelle le Rav Fishman? David Ben-Gurion, dans le son de la déclaration d'indépendance, l'appelle Rav Fishman. Il s'appelle le Rav Maimon ou il s'appelle le Rav Fishman? Eh bien, en vrai, il s'appelle le Rav Maimon. Mais le problème, c'est que quand il a dû utiliser un passeport lorsqu'il est revenu, eh bien, lorsqu'il a été chassé de Eretz Israël, il y avait un problème avec son passeport. Il a dû prendre l'identité, du moins le nom de famille, de quelqu'un qui était décédé, mais qui avait son passeport. Et à l'époque, il n'y avait pas d'automatisation informatique. Et donc, pour des raisons bureaucratiques, eh bien, il est devenu le Rav Fishman. Et c'est resté. Mais en vérité, il s'appelle le Rav Maimon, Yehuda Leib Maimon HaKohen. Mais, les amis, quel est le moment? Eh bien, le moment de l'histoire. Le moment de l'histoire. Vous savez, entre parenthèses, le Rav Maimon, quand on te dit qu'il était pour la réunion du peuple juif, pendant les premières années de l'État d'Israël, il est, j'ai dit, le premier Sar HaDatot. Et on a dit, Omed al-Shelo Chaval al-Azman. Mais il y a dans la Knesset, en même temps que lui, une femme qui s'appelle Ada Maimon, qui est sa petite sœur. Seulement elle a rejeté la Torah, elle est du Mapai. Et il faut voir les altercations qu'il y a à l'intérieur de la Média, entre le frère et la sœur, sur à quoi doit ressembler eh bien, la vision générale de l'État d'Israël. Au final, on a dit que c'était quelqu'un qui va laisser une trace indélébile dans l'histoire d'Israël. Cette trace indélébile, eh bien évidemment, elle arrive au moment de la création de l'État d'Israël. faut savoir qu'il avait une vision tellement, tellement Rav Kook. Il était un élève du Rav Kook, il était extrêmement proche du Rav Kook. La réalisation de ce rêve, pour lui, c'était un tout. C'était un tout et c'est la raison pour laquelle il a demandé à Ben Gurion de réaliser plein de choses. Et parmi ces choses-là, il y en a qui ont été acceptées, d'autres qui n'ont pas été acceptées en disant « Ah !» Par exemple, l'une des choses que le Rav Maimon veut faire, et il a même écrit un livre entier sur ça, le Rav Maimon veut reconstruire le Sanhedrin. Pas chaud. Il veut reconstruire le Sanhedrin. C'est le moment, ça y est. On est revenu sur notre terre. Faut reconstruire le Sanhedrin. Il a écrit un livre qui s'appelle Chidush HaSanhedrin Bemdinatenu Amitradeshet. Le problème, c'est que quand il présente le projet à Ben Gurion, Ben Gurion lui dit « Ah, tu veux faire le Sanhedrin ?» Non, mais attends deux secondes. Dans la Torah, il y a marqué que pour s'asseoir au Sanhedrin, il faut trouver des Anshe Chayil, des hommes valeureux au combat. Il dit ça, peut-être qu'on peut trouver des rabbins qui ont aussi été des combattants, ça, on peut trouver. Après, il dit, il y a marqué dans la Torah, il faut Anshe Emet, des gens de vérité. Nous, il y a là, on peut trouver aussi. Après, il y a marqué Sonne Betsa, qui déteste la corruption. Ben Gurion dit au Rav Maimon, il dit, ouais, mais hey, où est-ce qu'on va trouver aujourd'hui des gens qui détestent la corruption? Le Rav Maimon lui dit, à partir du moment où tu me donnes la permission étatiquement parlant de le faire, ça veut dire qu'on va avoir des taktsilim, ça veut dire qu'on va avoir des budgets pour ça. Bon, bah alors, avec suffisamment d'argent, on peut aussi trouver des gens qui n'aiment pas la corruption. Il était prêt à tout pour y arriver. L'anecdote raconte qu'il a même voulu, au moment où Ben Gurion a déclaré l'État d'Israël, il a voulu le oindre avec de l'huile. Pourquoi ? Il dit, parce que tu es en train de réaliser Malchut Israël, je veux te donner le din Meler et te mettre de l'huile. Alors, comme tu n'es pas vraiment Meler, alors ce sera Stam de l'huile. Lo bemet shemen amishra. Aval, prol zot. Et Ben Gurion lui dit, aval, ze lo bemet shemen amishra. Il dit, non. Il dit, lo bemet Meler. Il dit, non. Il dit, alors, azlo. Il dit, non, où on fait les choses pour de vrai, ou on ne les fait pas. On ne crée pas un pays pour de Keilou. Ose Emet, ose lo Emet. Mais vous voyez la relation entre les deux hommes. Une relation tellement extraordinaire. Juste que vous compreniez à quel point la relation était forte entre les deux. David Ben Gurion, dans sa deuxième fois où il est Rosh Memshala. Dans la deuxième fois où il est Rosh Memshala, on est dans la fin des années 50. Et à ce moment-là, le Rav Maimon est veuf et il est seul. Se trouve qu'il est à un moment donné seul chez lui. Son fils est absent, il n'est pas en Israël, il est parti pour le travail. Ses autres enfants mariés, les filles ne sont pas à la maison. Et son petit-fils, le fameux Shiloh, dont on a parlé depuis le début du cours, qui sont très très proches, il est à la yeshiva. David Ben-Gurion vient rendre visite à son ami, le Rav Maimon. Il n'est plus dans la politique. Le Rav Maimon est sorti de la politique en 1951. Mais il vient le voir, Stam. Et il se rend compte qu'il est tout seul. Il dit, là, t'as le fad. Pourquoi t'es tout seul? Alors il dit, parce que mes enfants, ils sont pas là, ils travaillent, machin. Il dit, et ton petit-fils? Il dit, mon petit-fils, il est allé à Shiva. Comment? Tu es seul, chez toi, tout seul, et ton petit-fils, il est allé à Shiva? Ni une, ni deux. David Ben-Gurion rentre chez lui, il prend son téléphone, et il appelle la Yeshiva. Bon, ben, c'est quoi la yeshiva? La yeshiva, vous la connaissez, elle s'appelle Kol Torah. Et c'est qui le Rosh Yeshiva à qui David Ben-Gurion demande à parler? Parce que tu imagines bien, si moi j'appelle la yeshiva, il y a un secrétaire qui va me répondre. Mais là, c'est « Oui, alors, c'est Ben-Gurion. » Donc, il demande à parler au Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et Rav Shlomo Zalman, il entend l'histoire. Et on lui raconte que Rav Maimon est tout seul à la maison et que son petit-fils, qui est le seul qui peut être avec lui, il est à la yeshiva. Le Rav Shlomo Zalman, il donne l'ordre à Shiloh d'être près de son grand-père tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le relayer. Et il écrira, le Rav Auerbach, chez Koyer Gadol, le Reb Ben Gurion, chez Limed Otano, Ilchot Kibud Avraham. Les amis, c'est cette relation-là. Alors j'ai dit en 1951, il quitte la vie politique et il va se consacrer à son deuxième amour. On a dit c'était un homme du peuple, un homme pour le peuple, mais c'est également un homme du livre. Sa sifria de 40 000 livres, eh bien il va lui donner un petit chipout. Et il va décider de créer une maison du livre pour le peuple juif à Mitradèche. C'est quoi cette maison du livre? Vous la connaissez? Il va créer Mossad Arav Kouk. Oui, oui, le grand bâtiment à l'entrée de la ville, Mossad Arav Kouk, Arav Maimon. Il faut imaginer. À cette époque-là, Mossad Arav Kouk, à cet endroit-là, à l'entrée de la ville, que nous, on connaît l'entrée de la ville aujourd'hui, mais les amis, comprenez bien, on est dans une époque où Kvish Mispar Echad, c'est pas par là qu'on rentre à Jérusalem. On a un vrai problème. C'est évidemment un Kvish qui est dominé en grande partie par les Jordaniens. Il n'y a rien à cet endroit de l'entrée de Jérusalem.
Il n'y avait pas la 443?
Et non. Et donc, résultat des courses, tout le monde se dit, mais faire Mossad Arav Kouk là-bas, mais c'est le bout du monde. Le Rav Maimon dit, non mais Altidag, Od Nikanes Mipo. Et aujourd'hui, c'est le Mossad Arav Kouk qu'on connaît, qui a sorti depuis près de 120 000 livres. Donc on peut voir ici quelle était la chokhma et la vision à long terme du Rav Maimon. Dans ces dernières années, il va être pratiquement aveugle. Et la famille raconte qu'il y a plein de gens qui venaient le visiter, lui rendre visite, mais qui lorsqu'ils étaient chez lui, on a retrouvé plein de gens qui ont essayé ou qui ont réussi à voler des livres. Le Rav Maimon ne voyait pas, et donc la personne, elle prenait un livre. Et le Rav Maimon a répondu, il dit, il y a marqué dans un Talmud, que lorsque quelqu'un vient visiter un cholé, il lui prend un peu de sa maladie. Il dit, moi, ma maladie à moi, c'est les livres. Je suis malade de livres. Donc les gens qui viennent, ils me débarrassent d'un peu de ma maladie. Zetov Meod. Un homme extraordinaire à toutes les dimensions. À toutes les dimensions. Mais comme je l'ai dit en spoiler tout à l'heure, son moment, le moment pour lequel il fait maintenant partie des figures de l'histoire, c'est ce fameux vendredi 5 Iyar 5708. Le Rav Maimon va être ramené à Jérusalem. Il habite, à Tel Aviv. Il habite à Jérusalem. Mais comme vous connaissez l'histoire, eh bien, quand on décide de déclarer l'indépendance, oh là là, et quelle histoire. Vous vous rappelez de ce qu'on avait déjà raconté une fois? En Mala Asot. On est le 12 mai. Le 12 mai 1948. Golda Meir vient de rentrer d'un voyage secret en Jordanie. Pour savoir si les Jordaniens allaient participer avec les autres pays arabes à la guerre contre nous si jamais on déclare l'indépendance. On pensait qu'il y avait une chance que non, et finalement les Jordaniens ont dit à Madame Meir, t'as pas compris, si vous déclarez l'indépendance, on va vous exterminer. On va vous massacrer. On va vous détruire. Au même moment, revient des États-Unis Moshe Charet. Et il vient avec une nouvelle terrible, puisque Marshall, le secrétaire d'État américain, le plan Marshall, refuse que Israël déclare l'indépendance. Les Américains sont contre. Ils ont dit, si vous le faites, on ne sera pas avec vous. C'est avec ces deux informations-là qu'il va falloir voter. David Ben-Gurion lance un vote parmi les 14 personnes qui sont les responsables du peuple, le gouvernement provisoire, mais seulement 10 vont voter. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On se lance ou pas? Mako répond. D'autant plus que juste avant de voter, il fait parler Yigal Yadin, qui va être le premier chef d'état-major. Il dit, quelles sont nos chances? Et Yigal Yadin répond, ah bah écoute, si on est super optimiste, 50-50, si on est réaliste, zéro. Et imaginez que c'est dans cette ambiance-là qu'il faut commencer à voter. Et finalement, on arrive à 4 pour, 4 contre, et il reste 2 votants. Ben Gurion, qui c'est sûr va voter pour, et Moshe Charette, qui a entendu de sa propre voix les États-Unis rejeter notre rêve. Si Moshe Charette répond non, à 5-5, on n'y va pas. Et il n'y a pas d'État d'Israël. Et donc, comme vous l'aurez compris, Moshe Charette dit oui. Il a fait mode. On a décidé d'y aller. Super. Où est-ce qu'on le fait? Il faut trouver l'endroit. Il faut trouver le moment exact. Il faut envoyer les invitations. Il faut écrire les invitations. Il faut trouver, une fois qu'on a trouvé l'endroit, parce que ça y est, on est à Tel Aviv, parce qu'on n'est pas à Jérusalem, parce que Jérusalem est sous siège. Donc on est à Tel Aviv. Mais où est-ce qu'on est à Tel Aviv? On est dans le musée d'art de Tel Aviv, qui en fait était la maison de Dizengoff, parce qu'elle a une petite salle en contrebas, si jamais les Anglais découvrent et qu'ils nous bombardent. Donc on a l'endroit. On a trié sur le volet 350 personnes, on leur a envoyé une invitation dans laquelle il est clairement stipulé qu'ils doivent garder secret la raison, l'heure et l'endroit de l'événement. C'est tellement secret que le jour de l'événement, des milliers de personnes sont dans les rues de Sderot Rothschild et que tout le monde est au courant de ce qui va se passer. C'est des retransmis à la radio, ce que tu veux. Mais c'est un secret. Il va falloir aller trouver des chaises. Et les chaises, on va les prendre à un commerçant de la rue Rothschild. Il va trouver un micro qui va être aussi pris chez un commerçant de la rue Rothschild. À la condition, il dit, je vous donne le micro, mais à la condition que vous mettez la pub de mon magasin dessus. Et sur le micro, on peut voir la pub du magasin Tzlil. On a l'endroit, on a le moment, on a les chaises, on a le micro. Yofi! Qu'est-ce qui nous manque? Le texte. Il n'y a pas de déclaration d'indépendance pour l'instant. Et là, tout a été marloquette. Tout, chaque virgule, c'était de marloquette. Mais la plus grosse marloquette, c'est la dernière. Shem Hashem ou pas Shem Hashem? Rav Maimon Ben Goyon. On met le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance ou on ne le met pas? Rabotai. Au début, Ben Goyon dit on ne met pas. Le Rav Maimon dit Animis Pater. Anilochotem. Tav. On le met. Les mecs de gauche, ils ont dit non. Nous, on est mis de patrine. Oh, nous, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, le Rav Maimon et Ben Gurion vont proposer quelque chose. Ils vont proposer, à l'aide d'un simple regard, de mettre le nom de Dieu que les non-religieux ne connaissent pas, à savoir Tsour Israël. Et le dernier paragraphe de la Miglat Atzmaout commence par Bebitachon Betsour Israël. Donc, nom de Dieu, Yesh. Aval, Becholzot, le Rav Maimon, il voulait qu'il y ait marqué Bamash, Yudke Varke, Hachem. Et donc, lorsqu'il va signer, parce qu'il fait partie des signataires de la déclaration d'indépendance, lorsqu'il va signer, à côté de sa signature, il écrira Bezrat Hashem Itbarach. Et donc, de ce fait, le nom de Dieu est marqué sur le parchemin de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Rabotai, זה הרב מיימון פישמן הכהן. לום כי הורא איתי הוא כותד דוד בן גוריון פה לדבי דו לגאולה. הוא נדי, אילה נדפוע דה זוונמון, דה זוונמון כידו דפס. אביה, זה אקזקטמון דו סלאק מפרל. אבידמון כדקה עשו הנפננס, זה לדבי דו לגאולה, c'est la réalisation de la promesse des prophètes, c'est l'espoir de 2000 ans de pleurs et de tfilotes qui se réalisent. Et c'est tout simplement, eh bien, le début de notre prise de conscience que nous pouvons maintenant le taken olam de Malchut Shaddai. Évidemment que l'événement est plus grand que le Rav Maimon. Mais il n'aurait pas fallu oublier de rattacher l'événement à celui qui nous a permis d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'on parle d'action héroïque, il y en a une qui n'était pas dans le protocole, de la cérémonie de la déclaration d'indépendance. Ce n'était pas prévu à la base. Mais le Rav Maimon ne pouvait pas s'en passer. Et donc, comme il ne pouvait pas s'en passer, il a fait signe à Ben-Gurion. Et finalement, eh bien, lorsqu'on pourra entendre les derniers mots de David Ben-Gurion que je vous mets là maintenant,
את מגילת היסוד למדינת היהודים במילה.
סמום עולה.
ברוך.
לרב מימון סולב. Il avait fait passer un pétek. Pendant que Ben-Gurion était en train de lire, il lui a mis un pétek sous les yeux. Parce qu'il est assis à sa droite. Il a mis un pétek sous les yeux où il y avait marqué deux mots. Birkat Shehecheyanu. Et une fois que Ben-Gurion a terminé de lire le texte, le Rav Maimon se lève pour prononcer la bracha la plus historique. Et historique, je ne parle pas au niveau simplement de l'histoire, mais la plus extraordinaire de l'histoire. La bracha qui vient tout simplement cachériser l'histoire avec un grand H, qui vient montrer ce que le Rav Tzvi Yehuda Kouk dira « Historia ze Esteria ». C'est Dieu qui se dévoile incognito. Rav Maimon se lève avec une voix tremblante d'émotion et dit « Shecheyanu vekiimanu veigiyanu lazeman azeh ». Il aura été la figure, la Torah, qui a donné le tampon de cachérisation officiel, parce qu'officieux il était là de toute façon, mais officiel de cet événement énorme. Le Rav Maimon Fishman HaKohen sera accompagné dans sa dernière demeure par des dizaines de milliers de personnes au Beth Akvarot de Sanhedria, et parmi eux, tous les membres de la Knesset Israël, mis à part les députés de nos chers amis arabisants. Mais tous les autres députés, qu'ils soient de gauche, de droite, religieux, pas religieux, seront à l'enterrement du Rav Maimon Fishman HaKohen. Ce n'était certainement pas l'enterrement où il y avait eu le plus de monde, mais c'est peut-être un des seuls enterrements où il y avait tout le monde. Et c'était tout simplement pour dire merci à celui qui aura été le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu pour la reconstruction historique de notre identité pour le début de la Géoula. Rav Maimon Fishman HaKohen, le Shecheyanu historique, cette année, lorsque nous dirons la bracha de Shecheyanu Vekiimanu Veigiyanu Lazeman Hazeh, je nous invite tous à repenser à celui qui a été le rav de David Ben-Gurion, à celui qui aura été le rav de la naissance de l'État d'Israël. Et pour la dernière anecdote, מדינת ישראל הנה בה באייר תשח. בה באייר תשח le bébé est né. Et comme il était le rav à la naissance du bébé, David Ben-Gurion vient le voir 8 jours plus tard. Il vient le voir 8 jours plus tard avec un ruban et lui dit « Coupe Zeh achshav brit hamila shel medinat Israël. » Mais ça s'est fait sans caméra, ça s'est fait sans grande pompe, ça s'est fait entre deux amis qui ont fait un chemin extraordinaire ensemble. L'un aura été ce que le Rav Kook appelle « Akoach shela be'emiyut, shela artziyut, shela chomriyut » L'un aura été celui qui porte la résurrection physique d'Israël et l'autre aura été celui qui lui a insufflé également la Neshama. Rav Yehuda Leib Maimon Fishman HaKohen, la Neshama de la Déclaration d'Indépendance. Chez nous, Chag Sameach Lekulam Ve Barbecue Naim. Et j'ai toujours pas, enfin si, je pense avoir terminé de penser et de réfléchir. Je pense, ça y est, qu'il faut d'abord mettre sur le mangal, la parguite, et seulement après, l'entrecôte. Parce que ma'alim bakodesh ve'en moridin. Donc, je pense maintenant que c'est évident qu'on doit terminer sur les entrecôtes et non pas l'inverse. Et pour tous ceux qui sont orlés à merguez, les minéhem, les merguez, je pense que c'est shlav benaim. Je pense que c'est entre les parguites et l'entrecôte. Vous verrez que dans quelques années, les kavanot des Mekoubalim me donneront raison.
Merci beaucoup, Vodarav.
Hazak ou Barouf.
Merci beaucoup. Avec sa mère, tout le monde.
Alors, vous refaites la grande fila à Givat ?
Ouais,